Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous. C'est ravi de vous retrouver ce soir dans les débats d'Europe Soir. Même le dimanche, on y a droit aussi. Et ce dimanche, il est bien politique, mais il va falloir s'habituer parce qu'en année présidentielle, je peux vous dire que très très souvent, on va parler de politique le dimanche. J'aimerais pouvoir compter ceux qui se sont étonnés de voir Anne Hidalgo annoncer sa candidature à la présidence de la République française, d'ailleurs, a-t-elle précisé. Vous ne deviez pas être très très nombreux. Enfin voilà, le secret de Polichinelle tombe et Anne Hidalgo, totalisant entre 7 et 9% des voix, se lance cette fois-ci publiquement pour, dit-elle, bâtir une France plus juste, réinventer le beau modèle français pour tous nos enfants. Le discours a été tenu non pas à Paris, mais sur les docks de Rouen, sans doute pour aliéner les critiques de la parisienne Hidalgo. Quant à la primaire, elle ne l'évoque pas. La candidature Hidalgo, on en parle dans les débats d'Europe Soir dans un court instant. Dimanche politique, je le disais, avec de l'autre côté de l'échiquier, le passage de relais, Le Pen-Bardella à la tête du RN, ce qui permet à Marine Le Pen de se lancer pleinement dans la campagne, présidentielle aussi, bien sûr. Son slogan pour 2022, « Liberté, liberté chérie », qui est extrait directement de la Marseillaise. Elle l'a souligné d'ailleurs dans son discours de Fréjus. Discours qui lui ressemble, hein. Nous écouterons des extraits et qui, on peut le dire, rappelle des discours plus anciens du Front National. Quant à Éric Zemmour, rien dans le discours, mais devant quelques journalistes, Marine Le Pen a confié lui avoir dit que la théorie selon laquelle la France attend un Trump est une théorie qu'elle ne partageait pas. Le Pen, Bardella, Zemmour, ils sont aussi sous les projecteurs de nos débatteurs. On en parle d'ici à peu près 40 minutes. Alexandre Benalla refait parler de lui, l'ancien collaborateur de l'Élysée, comparaît demain jusqu'au 1er octobre devant le tribunal correctionnel de Paris. Avec son comparse Vincent Crase, ils sont prévenus pour avoir molesté, souvenez-vous, ce couple de jeunes, place de la Contrescarpe à Paris le 1er mai 2018. Il lui aussi reprochait d'avoir utilisé un passeport diplomatique alors qu'il n'en avait manifestement pas le droit. Benalla, le premier scotch du capitaine Macron, on en parle tout à l'heure à 19h15. Et puis nous terminerons avec du tennis, car si Djokovic remporte l'US Open tard ce dimanche, il remportera 21 grands chelems et donc le plus grand exploit de l'ère Open chez les messieurs devant Nadal, devant Federer. Ce sera une première depuis Rod Laver en 1969. Finale prévue contre Daniil Medvedev, qui sera d'ailleurs à suivre en direct sur Europe 1 à partir de 22h. De tous ces sujets, on en parle avec Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Patrick Caram, vice-président de Libre et vice-président de la région Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis avec nos débatteurs qui vont nous rejoindre dans un petit instant, Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site d'information Boulevard Voltaire, et Razia Mehdi, ancien député socialiste, directeur général de News Tank City. À signaler dans l'actualité également ce dimanche la campagne de vaccination pour la troisième dose qui débute demain. Sont concernés les plus de 65 ans et les pensionnaires des EHPAD. La consigne, c'est d'avoir reçu sa dernière injection il y a 6 mois au moins. Mercredi, ce sont tous les personnels de santé qui devront être vaccinés. 2 700 000 personnes. Tous les salariés des hôpitaux et des maisons de retraite qui n'auront pas reçu une première dose pourront être suspendus sans rémunération. Le pape François est en Hongrie. En clôture de sa visite éclair à Budapest, il a appelé les Hongrois à s'ouvrir aux autres. L'Arc de Triomphe à Paris, recouvert de tissu pour l'œuvre posthume de Christo, c'est fait. 95 cordistes sont lancés ce matin depuis le sommet du monument parisien. Et puis la Formule 1 avec le Grand Prix de Monza et une belle pizza calzone que nous ont concocté les deux leaders du championnat. Les deux voitures de Verstappen et Hamilton se sont retrouvées l'une sur l'autre. Résultat d'un bras de fer au 26e tour juste après la sortie des stands. Plein gaz du pilote Mercedes, Verstappen arrive en pleine balle, flanc contre flanc dans la chicane. Et le Hollandais a vu sa voiture monter sur un vibreur dans le virage avant de grimper sur celle de son adversaire. Les deux ont fini dans les graviers, ont dû abandonner. Et pour son plus grand plaisir, c'est l'Australien, mais d'origine italienne, c'est quand même ça compte à Monza, Daniel Ricciardo, qui remporte son 8e Grand Prix. Je termine par le foot, 5e journée de Ligue 1. En ce moment, c'est Nantes qui joue contre Nice. Et puis à 20h45, Lyon accueille Strasbourg. Vous êtes bien sur Europe 1. Et il est 18h.
Soir week-end, 18h, 20h.
Pierre de Villeneuve.
Et je salue au passage Gabrielle Cluzel qui est arrivée avec Razi Hamadi. Pas main dans la main, hein, non. Mais qui sont arrivés en même temps dans le studio. Bonsoir à vous deux.
Conjointement, mais sans l'être.
En tout cas, dans le studio. Dehors, on ne sait pas.
Ce n'est donc pas un, tenez plus, un secret de polichinelle. Hein, je le disais, Anne Hidalgo est officiellement candidate à la présidentielle. Discours à Rouen ce matin, sur les docks, clin d'œil à son père qui travaille dans les ports, et dans une ville PS puisque dirigée par Nicolas Mayer-Rossignol. Voilà pour le contexte, écoutons la déclaration.
Aujourd'hui, je suis prête. C'est pourquoi j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Je suis candidate pour offrir un avenir à nos enfants, à tous nos enfants. Ce sera le rendez-vous de la première femme présidente de la République avec les femmes françaises.
Voilà donc, que pensez-vous de cette déclaration ? Je vous pose la question à vous quatre, à la fois sur le fond, sur la forme et sur le timing. Qui répond ? Patrick Caram.
Je peux. D'abord, il faut considérer qu'elle a le droit de se présenter, surtout... C'est important qu'il y ait.
C'est important. Merci Patrick Caram.
C'est important.
Anne Hidalgo, vous avez le go de Patrick Caram.
Voilà, il le fallait pour qu'elle se lance. Et surtout, c'est important d'avoir des candidats qui essayent quelque part d'avoir dans leur ADN les valeurs de la République, même si dans sa propre majorité, il y a quand même des trublions, des gens qu'elle a acceptés.
Des noms
dans les Verts, chez les Verts. Vous voyez bien que sa majorité est verte. Elle gouverne avec les
Europe Écologie. Vous parlez du Conseil de Paris ou vous parlez d'autres
personnes ? Conseil de Paris. Mmh. Elle a constamment eu besoin ces derniers temps de devoir les recadrer. Elle ne le faisait pas avant. Je pense que le fait d'avoir envie de se présenter au présidentiel fait qu'elle a durci le ton sur ces questions. Mais moi, je la crois, moi, sur ces questions-là irréprochables. Je ne la vois pas tendre la main à des activistes islamistes, etc., contrairement à d'autres.
Sur le timing. Alors, sur le timing d'abord, Patrick Caram, et ensuite Frédéric Dabi.
Sur le timing, oui, elle devait.
Frédéric Dabi d'abord.
Excusez-moi, Patrick. Non, elle devait partir parce que, d'une part, elle a été sur une sorte de faux plat. Nous, à Paris, éditorialistes, tout le monde se dit qu'elle va être candidat, et il y avait un slogan socialiste qui disait le socialisme, une idée qui fait son chemin. Une candidature, ça doit faire son chemin. Et beaucoup de Français se demandait quelles étaient ses intentions. Donc, elle devait un peu, je dirais...
Clarifier.
Et d'un autre côté, ses principaux adversaires à gauche sont partis. Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, la primaire des Verts va se terminer, je crois, à la fin du mois de septembre. Et c'est vrai qu'elle ne pouvait peut-être pas rester en décalage dans un contexte où la gauche est certes morcelée, mais... morcelée, en situation d'être éliminée au soir du premier tour. Mais pour la première fois depuis très longtemps, notre dernière enquête IFOP fiduciale pour le Figaro et LCI donnait le total d'intention de vote en faveur de la gauche en net progrès, 3 à 5 points selon les différentes hypothèses. Donc, elle doit se préparer, elle doit entrer dans ce...
Et Hidalgo, elle est sur quelle fourchette ?
Elle est entre 7 et 9% d'intention de vote. C'est faible. Il y a des candidats qui, en septembre 1994, étaient à des niveaux presque analogues ou un tout petit peu au-dessus qui ont gagné. Je parle de Jacques Chirac. Donc, c'est très, très... ça ne veut pas dire qu'elle est perdue irrémédiablement. Elle a quand même un niveau plutôt bas dans un contexte où la gauche est en situation d'être éliminée.
Vas-y, Amédi.
Non, le timing, le lieu, le contenu. Le timing, je ne vais pas redire ce qui a été très, très, très bien dit par Frédéric Dabi. Et en même temps, elle ne pouvait pas attendre non plus, puisque chaque semaine, nous avons un nouveau candidat de gauche. Donc,
vous comptez les Verts dans la gauche ?
Oui, puisque de toute façon, après des Verts, donc,
ça va mieux en le disant.
La primaire des Verts, la convention, donc ensuite, finalement, en termes de calendrier, ça a amené tout ça à octobre, puis peut-être on ne sait jamais ce qui peut se passer, les vacances de la Toussaint, c'est fini. Et en effet, une candidature doit faire son chemin. Le lieu, vous avez remarqué sur Europe 1, qui est une radio bien informée, qu'il y avait une actu, cette actu, c'est qu'elle n'était pas à Paris. Voilà, donc elle était à Rouen aussi parce qu'on voit déjà un premier message qui est envoyé. Je ne suis pas la candidate de Paris. Je suis maire de Paris. Je profite de cette stature. Je sais que ça peut être une difficulté. D'ailleurs, il y a eu quelques démonstrations ou en tout cas quelques manifestations qui voulaient la rattacher à son bilan. Et on va dire que là, ça pose une question. C'est-à-dire autant le Parti socialiste a besoin d'une candidate, c'est-à-dire que elle sauve finalement la situation pour le Parti socialiste qui était bien embêté, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de candidat, le Parti socialiste était prêt à se ranger derrière n'importe quel autre candidat de gauche, quasiment, ce qu'on a vu aux européennes. Puis lorsqu'Hidalgo a émergé comme une candidate potentielle et qu'elle a démontré qu'elle avait envie, quelque part ça a arrangé tout le monde. Mais un candidat ou une candidate a aussi besoin d'un parti. C'est là que il y a quand même une petite difficulté sur laquelle on reviendra, et d'où le choix, pour finir, et le rappel de son Tour de France, des villes, les villages, etc., de s'appuyer sur cette nouvelle génération d'élus. Parce que finalement, la force de la gauche socialiste, social-démocrate aujourd'hui, c'est moins le parti, moins son assise sociale dans les syndicats que le réseau d'élus à travers ces métropoles qui ont vu émerger, que ce soit à Nancy, Montpellier, Rouen, des dirigeants de qualité.
Gabriel Cluzel.
Alors, on va peut-être parler du lieu. Rouen, c'est le pays de Jeanne d'Arc. Donc, il faut en effet, c'est peut-être la Jeanne d'Arc du Parti Socialiste. Il faut en effet un miracle pour porter la gauche et arriver à faire quelque chose aujourd'hui.
On lui souhaite une fin meilleure, en tout cas dans ce monde-ci.
Non, oui, bien sûr. Dans l'au-delà, c'est plutôt enviable. Anne Hidalgo,
Anne Hidalgo, elle a cité Claude Monet, mais pas Jeanne d'Arc.
Vous ne m'étonnez pas tellement.
Elle a cité Jeanne d'Arc.
Elle a cité
au début de son propos, elle a légitimé le choix de Rouen en finissant par Lubrizol, lieu d'une catastrophe écologique.
Très bien. Donc Anne Hidalgo, alors simplement sur le timing, c'est vrai que c'est quand même un peu difficile pour elle actuellement compte tenu de tout ce qui se passe, de l'actualité à Paris autour du crack. Hein. On peut pas dire qu'elle ait trouvé une solution mirobolante pour résoudre cette question. Il y a tout le battage autour du hashtag Saccage Paris qui, malgré tout, montre que l'échec est plutôt patent pour un certain nombre de gens qui habitent là-bas et aussi qui y vont. Parce que l'élection, le problème de Anne Hidalgo, c'est que vont voter pour elle un certain... Ou en tout cas vont être appelés à voter pour elle et pour d'autres, un certain nombre de gens qui ne peuvent plus aller à Paris, qui se trouvent être la capitale quand même aujourd'hui, qui ont d'immenses difficultés en raison de la circulation. Aujourd'hui, elle va devoir s'affronter du scrutin. Donc ça c'est une chose. Et puis dernier point, moi j'étais quand même assez surprise par sa présence hier. À la fête de l'humanité. Mmh. Alors on peut voir cela comme une volonté de ratisser à gauche, de trouver un électorat populaire ou en tout cas d'être en quête d'un électorat marqué à gauche. Mais je rappelle que cette fête de l'humanité a quand même été marquée par des cris tout le monde déteste la police lors du concert, si je ne me trompe pas, du vendredi soir, si je ne dis pas de bêtises. C'est quand même extrêmement problématique pour quelqu'un qui se présente à la candidature. Quand elle a remercié Fabien Roussel pour son accueil, à aucun moment elle n'a émis de bémol sur cette affaire. En tout cas, je ne l'ai pas vu si c'est le cas. Donc, je trouve ça quand même assez problématique.
Moi, je dis, il faut qu'on fasse un petit peu attention à un truc, parce que sinon, on ne va plus jamais réussir à débattre, à discuter de rien. Moi, je veux bien qu'on porte comme responsable les gens des propos qu'ils tiennent ou de leur silence lorsqu'ils sont en situation d'immédiatement réagir face à des énormités ou des... Mais bon, être dans un lieu où 24 heures avant ou 24 heures après, il s'est dit quoi que ce soit, Valérie Pécresse, elle était présente aussi puisqu'elle a débattu
et elle a été huée lorsqu'elle a pris la défense des policiers.
Lorsqu'elle a dit qu'elle
n'acceptera jamais qu'on remette en question l'institution policière et que les policiers seront... Elle sera toujours aux côtés des policiers.
Je pense que c'est scandaleux ce qui s'est passé.
Elle l'a fait devant... Vous avez vu les images.
Frédéric Gabi.
Je pense qu'on s'éloigne un petit peu de la question qui est une annonce de candidature. Est-ce que ça a des potentialités pour la gauche? Dans son discours, d'ailleurs, je crois qu'elle a parlé de la revalorisation de toute une série de métiers, dont la police, les gendarmes et les soldats. Mais elle a mis le paquet sur l'enseignement. Mais je réagis sur ce qu'a dit Gabriel Cluzel, qui est très, très intéressant. La question pour Anne Hidalgo, c'est le parisianisme. Est-ce qu'elle va être plombée? Parce que, on va dire, je vous donne en fait un petit exemple, elle a réduit la place de la voiture à Paris. Entre parenthèses, ça a été soutenu assez massivement par les Parisiens aux élections municipales. On a réalisé une enquête la semaine dernière sur les 30 km/h. Quand on voit Twitter, certains éditorialistes, on avait une majorité de Parisiens qui étaient favorables. Donc, le parisianisme, elle va faire en France ce qu'elle fait à Paris. Et dans ce cadre, elle ne connaît pas la France périphérique, les communes rurales où c'est 24% des Français vivent et ils ont besoin d'une, deux ou trois voitures. Mais elle va. Elle l'a bien montré dans son discours. Elle a montré l'angle de défense. Elle a mis en avant au tout début son parcours.
Mais vous avez raison. Mais la question qu'il faut poser, et vous avez raison, c'est est-ce que la France entière est du verbe haïr Anne Hidalgo parce que elle fait ce qu'elle fait à Paris.
Alors, les baromètres de popularité qui ne sont pas l'alpha et l'oméga, mais qui sont un peu plus fiables que Twitter ou des conversations dans des cafés, montrent qu'elle a une popularité assez forte. Le dernier IFO fiducial pour match donne 46% de bonnes opinions. C'est la première à gauche derrière Martine.
Donc c'est la
Aubry.
Fibre écolo qui fonctionne,
mais
par exemple.
C'est vrai qu'il y a un rejet, mais je disais, c'était assez intéressant et je pense que ça va être beaucoup développé lors de sa campagne. Il y a le livre qu'elle a fait, il y a le livre que fait Serge Raffi sur son parcours, en disant « Je suis bien sûr maire de Paris, mais je suis petite fille de républicain espagnol, fille d'immigré, j'ai grandi à Lyon, je suis venue à Paris. » Elle peut, par son
elle
incarnation,
et ouais.
Tout à fait, elle peut, un peu comme le Nicolas Sarkozy de 2007, quand il avait parlé français de son mêlé. Ça avait été très fort. Je fais une comparaison qui est peut-être audacieuse entre les deux, même si je crois qu'ils s'entendent plutôt bien. Mais dans ce cadre-là, elle va essayer de montrer que oui, la politique menée peut-être en décalage avec ce qu'attendent beaucoup de Français hors de Paris intramuros, mais son incarnation lui permettrait peut-être d'apparaître comme une Française comme les autres.
Alors, deux éléments. C'est une formidable compétitrice. Moi, je vous rappelle que face à Nkaen, elle était perdante. Mmh. Tous les sondages la donnaient battue face à Nkaen. Elle a gagné l'élection. Le découpage. Oui,
c'est un nom polonais, je devrais pouvoir le prononcer facilement. Kościuszko, quand on dit.
La précédente élection, le découpage électoral, évidemment, jouait pour. Et puis, il y a eu ces dernières municipales. Évidemment, elle se retrouve face à la droite, macroniste, et les macronistes, et elle bénéficie effectivement de la chute de la candidature macroniste, et puis, du fait que
elle,
les Républicains...
Elle était devant lui, elle était devant Benjamin Griveaux avant l'affaire.
Ce que je veux dire simplement, c'est que elle a quand même ce talent en politique de faire parfois prendre des vessies pour des lanternes, c'est pas une critique. Moi, quand vous avez dit, cher Frédéric, que... son bilan est plutôt apprécié sur la voiture par les Parisiens, il faut rappeler que les Parisiens n'ont pas de voiture, pour une grande partie, et que les Franciliens, par contre, qui se sentent exclus de Paris, les Franciliens qui se sentent exclus de Paris, parce qu'ils ont l'impression qu'on a créé autour de Paris un mur, un donjon, que Paris leur est inaccessible, qu'on a mis...
C'est le vice-président de la région Île-de-France.
Non, mais parce qu'il faut écouter les maires, il faut écouter les gens. Quand vous vous déplacez en Île-de-France, il y a un nom qui revient et qui est unanimement décrié, c'est le nom d'Hidalgo.
Il y a une anecdote là-dessus assez éloquente, c'est que, je me rappelle, il y a un été de cela, est décidé assez rapidement d'interdire donc les bus diesel à Paris. Et cela se fait sans véritable grande concertation avec les maires de première et de deuxième couronne. Je travaille dans le secteur, on m'appelle pour me demander des renseignements. C'est Jean-Christophe Lagarde. Il dit, Razi, qu'est-ce qu'il existe comme solution? Puisque moi, mes gamins, par exemple, le 19 septembre, j'ai 5 écoles, le Louvre. On a un bus municipal, il est diesel.
Qui va jusqu'au Louvre.
Donc, comment on fait? Donc, vous avez là un sujet qui est révélateur aussi, parce que Anne Hidalgo va être rappelée régulièrement, à la fois injustement, sur des éléments de l'actualité parisienne ou de son bilan, mais quelquefois aussi, justement, moi, ce qui me passionne et ce qui est mon quotidien professionnel, c'est les questions urbaines, c'est les enjeux urbains. Et là, la coordination entre la première et la deuxième couronne, comment dire? Il y a du boulot, c'est-à-dire on peut être solidaire avec les Grecs pendant la crise financière, mais c'est un peu plus difficile d'être solidaire, mais il faut aussi donner des preuves.
Vous êtes sérieux?
Vous avez compris ce que je dis ou
on
pas?
On parle, mais j'ai parfaitement compris. Vous êtes en train de comparer la deuxième couronne à une situation internationale
de
solidarité.
Vous vous trompez.
Alors, si c'est pas ça, j'attends votre explication. Parce que
ce que j'allais dire,
moi j'attendais la fin.
Vous avez pas la fin de Razi Hamadi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une ironie dans une certaine gauche à avoir sur des tribunes des grands discours en disant il faut être solidaire avec les Grecs, et quelquefois au quotidien, ils ne sont même pas solidaires avec ce qui se trouve de l'autre côté du périph. Vous voyez, vous auriez dû me laisser attendre.
Vous avez, bon, donc, je n'ai pas sûr que j'ai noté que vous avez effectivement dénoncé, alors bien sûr avec beaucoup d'intelligence, de subtilité, de gentillesse. Vous étiez du même camp politique. Vous avez dénoncé son petit côté un peu cassant, autoritaire. Mais oui, quand vous dites que sur le bus, sans concertation, elle l'impose. Mmh. Elle a fait la même chose pour les voies sur berge. Elle veut faire la même chose sur le périph. Elle l'a fait la semaine dernière, sur les salles de shoot.
Pardonnez-moi, mais je pense que vous faites fausse route. On parle de la candidature à la présidentielle.
Vous
me parlez d'urbanisme.
Mais non, mais tout ça, pardon, tout ça,
ça va créer. L'urbanisme, la candidature à la présidentielle.
Salle balle de shoot qu'elle va mettre dans une école sans concertation.
Non, mais juste un mot dessus.
C'est la méthode Hidalgo. La méthode Hidalgo, c'est le passage en force. Mais et si c'est elle qui décide.
Mais si je puis dire...
Attends, Gabriel.
Non, mais c'est un débat qui est très intéressant parce que, en réalité, et vous l'avez dit, Frédéric Dabier, elle se présente, et on voit le clin d'œil qu'elle fait, comme donc une fille d'émigrés espagnols, de s'en mêler, si j'ose dire. Donc, c'est vraiment un appel du pied pour ce qui, aujourd'hui, on va être clair, l'électorat de substitution, le prolétariat de substitution de la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gauche ne s'occupe plus du milieu ouvrier, qui du reste, maintenant, vote plutôt Rassemblement National. Et elle fait des yeux doux, les yeux de Chimène à la population immigrée, pour le dire rapidement, celui des banlieues et des cités. Donc en disant ça, elle leur fait un clin d'œil. Mais en même temps, si vous discutez par exemple avec des chauffeurs d'Uber, de Freena, ils détestent. Pour la plupart, enfin moi, ceux que j'ai rencontrés en tout cas,
c'est parce qu'ils roulent à Paris.
Parce qu'ils ont investi. C'est des gens qui. Voilà, parce qu'ils veulent rouler à Paris. Bah oui, ils veulent faire leur travail à Paris.
C'est dommage.
Exactement. Oui, non, mais n'empêche que c'est pas neutre. Si elle avait vraiment un réel intérêt pour les gens ici de l'immigration auxquels elle fait les yeux doux, peut-être que la situation de ces personnes qui ont acheté un véhicule diesel très cher en espérant qu'il durerait, auxquels on dit aujourd'hui ah ben non, il va falloir un moteur électrique, qui peuvent pas arriver à faire à emmener les clients à bon port. Parce que c'est un vaste chantier cette ville et que on peut plus joindre un point à un autre dans un laps de temps raisonnable. Eh bien, elle s'occuperait d'eux évidemment. Donc tout cela. Devrait quand même ressortir dans la campagne et toutes ces ambiguïtés et cette sorte de schizophrénie politique devrait apparaître.
On va parler de cette campagne présidentielle annoncée pour Anne Hidalgo et j'aimerais bien qu'on sorte aussi un petit peu du cadre de l'urbanisation. On revient dans un instant avec nos débatteurs. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Les débats d'Europe Soir continuent avec Gabriel Cluzel, rédactrice en chef du site d'information Boulevard Voltaire, avec Razi Hamadi, ancien député PS, directeur général de News Tank City, avec Patrick Karam, vice-président de Libre, vice-président de la région Île-de-France, et Frédéric Dabi, directeur général Opinion chez IFOP. On parle de la candidature désormais officielle d'Anne Hidalgo, candidature au-delà du périph', puisque le discours lui-même s'est tenu à Rouen. Alors, même si ma collaboratrice Capucine Patouillet remarque que Rouen, c'est sur la Seine, donc on ne quitte pas la Seine d'une certaine manière. Merci Capucine pour cette remarque plutôt drôle. On va voir l'échiquier politique dans un instant, parce qu'effectivement, il va falloir composer avec les autres forces de gauche. Mais Frédéric Dabi, il y a aussi le fait qu'un discours présidentiel, comme on le disait avant la pause, bah, c'est pas que des histoires de quotas de voitures, de pollution. Donc, il y a eu des sujets qui ont été abordés par Anne Hidalgo ce matin.
Elle n'a pas marqué très si fortement que ça son empreinte, si je puis dire, environnementale sur les questions du climat, comme elle le fait à Paris, comme elle l'a fait aux élections faites municipales. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une vraie continuité avec le discours d'entrée en candidature de François Hollande quand elle a parlé d'éducation. Rappelez-vous le claim, si je puis dire, pardon, de ce mot anglais, le mot-clé ou le slogan.
Il est bilingue, Frédéric.
Surtout pas, heureusement. De François, c'était mon programme, c'est la jeunesse. Mon programme, c'est l'éducation. Et lorsqu'elle dit qu'elle veut assurer à nos enfants un bon avenir, elle touche exactement ce qui est le fond du pessimisme français, qui est un pessimisme de projection. Les Français ne sont pas plus pessimistes que les autres, mais sur l'avenir de leurs enfants, c'est effectivement
le peuple le plus inquiet,
et il y a une vraie crise de confiance sur l'éducation nationale. Alors, donc, de ce point de vue-là, elle a plutôt touché juste.
Alors, en toute humilité, c'est moi qui avais apporté ça dans la famille socialiste, avec un certain nombre de slogans, une grande batterie. Hein. Ah oui, je le revendique maintenant, parce que j'ai souvent...
On n'est jamais mieux servi que par soi-même, mon cher Razi.
Le droit à l'avenir, première génération à vivre moins bien que ses parents... Les analyses, y compris qu'elles soient quantitatives ou quali, lorsque vous parlez aux jeunes, on croit qu'on parle aux jeunes, mais en fait, on parle aux parents et aux grands-parents. Et ça, c'est le discours qui tourne autour de cette idée, y compris qui peut être décliné en termes régressifs, hein, c'est-à-dire la première génération a vécu moins bien que ses parents. Ça, à chaque élection présidentielle, ça passe. Donc, maintenant, il y a un vrai sujet...
C'est le pro des discours présidentiels.
Il y a un vrai sujet là qui est posé par rapport à l'échiquier politique, si on sort des sujets stricto urbains. même s'ils y sont liés, ça va être cette nécessaire union, en tout cas, cette possible union de la gauche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a un qui va émerger, qui va catalyser le vote utile. C'est ça la course de vitesse, que ce soit pour les écologistes, parce que les gens de gauche, ils veulent voter pour quelqu'un qui gagne, ou qui peut gagner, ou qui peut s'approcher du premier tour. Mais il va falloir montrer que sur le fond, c'est fongible. Or, sur la question énergétique, qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce qu'on est pour sortir du nucléaire et faire les mêmes bêtises qu'on avait faites sur Fessenheim ? Ou est-ce qu'on va dire non ? La priorité, c'est pas sortir du nucléaire, c'est zéro émission. Tous les gens un peu sérieux aujourd'hui, avec 5-7 ans de recul, vous expliquent que si vous voulez aller vers le zéro émission, on peut pas le faire sans le nucléaire.
Mmh.
Bien. Qu'est-ce qu'on va dire sur la question agricole ? Par rapport à la PAC ? Le sujet par rapport aux écologistes.
Oui.
Je rappelle sur le nucléaire, entre la position du Parti communiste, ouais, LFI et les écologistes, c'est différent.
Une présidentielle, ce n'est pas que des programmes, c'est d'abord une incarnation. Ah oui, je crois que tu mets ça vraiment de côté. C'est la chose la plus importante.
Bien sûr, il faut
des programmes cohérents et qui collent avec les préoccupations des Français.
Bon.
L'éducation, c'est la première
préoccupation
après la santé.
Pour reprendre ce que vous dites, Frédéric Dabi,
je vais citer un exemple qui, évidemment, ne va pas vous plaire, mais Donald Trump, quand il est arrivé, son slogan, c'était « Make America Great Again ». C'est quoi le trend, pour reprendre, d'Anne Hidalgo ? C'est quoi ?
L'espoir. C'est retrouver l'espoir. C'est recouvrir l'espoir. C'est la trame, le droit à l'avenir.
Oui.
Le droit à l'avenir. Je pense que la trame, c'est le droit à l'avenir.
Dans ce qu'elle a dit aussi, c'est la
France américaine. Il y a évidemment une projection, et j'entends l'incarnation, mais il y a aussi la tactique. On est sur du court terme. Il faut gagner une sorte de primaire à gauche entre tous ces candidats, parce que quand même, ils sont combien aujourd'hui ? 5, 6 ? Ils seront combien demain ?
À peu près autant qu'à la primaire de la droite.
Et combien ? D'accord, mais il y aura une primaire à droite et il y aura un candidat.
Ça, on ne sait pas si
il y aura un candidat.
Donc vous êtes visionnaire. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il y a une primaire à droite ?
Vous verrez bien.
Mais vous m'en dites trop ou pas assez, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de primaire à droite, nous ne laisserons pas
deux candidats aller à l'élection présidentielle.
Alors maintenant, je vais vous dire,
pour la gauche, vous aurez ces candidats qui vont se présenter quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que Mélenchon sera là, quoi qu'il arrive. Communiste sera là. Les écolos seront là. Elle sera là aussi si elle gagne sa primaire de gauche, ce que je crois. Non, sa tactique à elle, c'est clair. Lorsqu'elle a parlé de multiplier par deux la rémunération des enseignants, bon, elle s'est fait tacler gentiment par son ami Mélenchon, qui lui a dit de savoir compter et d'avoir et qui lui a lâché deux ou trois vacheries. Mais pourquoi elle le fait ? Elle fait ce qu'a fait Hollande. Elle a vu qu'Hollande, évidemment, avait eu le vote des enseignants. Un million de bons votants. On ne crache pas dessus. Donc, on leur dit, vous inquiétez pas, je m'occuperai de vous.
Pardonnez-moi Patrick, mais ça ne me donne toujours pas la colonne vertébrale.
Mais pour l'instant, on n'est pas sur la colonne vertébrale.
On est sur la tactique. Vous avez dit l'espoir. Ouais. Ok, Gabriel.
Oui, alors pardon, mais l'espoir et l'avenir de vos enfants, c'est quand même un petit peu bateau. Enfin, ça s'apparente à demain, on reste gratis.
Qui Make America Great Again, c'est bateau
non,
aussi.
Non, parce qu'il y avait une dimension patriote, évidemment. C'était un message qu'il envoyait, le candidat qui dirait je veux et il y en a déjà qui disent moi je veux de l'espoir pour la France ou là c'est autre chose. À partir du moment où on introduit le mot France aujourd'hui, d'ailleurs on a bien remarqué qu'il est tabou et la plupart des gens parlent de République, ils parlent plus de France. Le mot France est devenu un marqueur d'une certaine droite patriote, on va dire, comme elle s'appelle elle-même. Donc, moi, je ne trouve pas que ce soit une colonne vertébrale. Et pardon de revenir à l'intérieur de Paris, mais on est bien obligé, puisque c'est le seul endroit où on a un bilan. Mais pour quelqu'un qui a chassé les familles de sa ville, c'est quand même assez paradoxal. Disons-le. Ah bah, on voit bien, le nombre d'inscrits dans les écoles à Paris baisse de façon drastique.
Le nombre d'habitants progresse. Et le seul territoire où ça baisse, c'est à Paris.
Bah oui, posez-vous
la question, posez-vous les bonnes questions.
Il y a une contre-politique familiale.
40 000
Mais il y a une responsabilité majeure d'Anne Hidalgo. Vous me demandiez ce qui pourrait constituer le corpus de sa campagne.
J'ai retrouvé un mot. Veux avec vous tout faire pour réparer, pour bâtir une France plus juste. Voilà.
Alors, réparer surtout.
Par exemple.
Réparer, parce qu'elle a plusieurs fois parlé d'apaisement, société fracturée, etc. Bon, ça m'amuse beaucoup. Alors, elle fait évidemment allusion au fait que sous ce quinquennat, les choses se sont pas bien passées. Enfin, on a hystérisé de manière, j'allais dire, quasiment systématique une partie des Français. monter les Français contre les autres. La crise Covid, c'est très exactement ça, ce qui se passe entre ceux qui sont contre et ceux qui sont pour le pass vaccinal. On a eu la même chose à l'époque des Gilets jaunes, etc. Elle, elle parle de rassembler. Mais pardon, si elle avait montré, et il faut là encore revenir à l'exemple parisien, elle n'est pas capable de le faire, elle ne sera pas
excusez-moi,
capable.
Excusez-moi, mais il y a eu des élections municipales qu'elle a gagnées. Je me permets de dire
avec
que...
Combien, quel pourcentage
Mais attendez,
pas tous en même temps, s'il vous plaît, on ne vous entend pas.
Je me permets de ma position de sondeur. Si on commence à dire qu'une élection gagnée n'est pas légitime...
Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas gagné. J'ai dit qu'elle a gagné, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un vote et un engouement massif derrière ça.
Patrick, quand vous dites... Non, voilà, c'est ça le problème. Quand vous dites son échec en fait à Paris, c'est un an après l'élection.
Son échec de gestion de Paris.
Vous pouvez dire,
mais regardez les manifestations.
Patrick, on n'est pas là pour s'interrompre.
Non.
Dire une phrase. J'aimerais bien, nous sommes à la radio, et si vous parlez tous en même temps, on ne vous entend pas. Et vous, et vous non plus, on ne vous entend pas. Il n'y a pas que Frédéric Dabi.
Mais moi, je ne m'entends pas.
Non, mais je vais être très très rapide.
Mettez le casque, voilà, vous allez voir ce que ça donne.
Je veux bien qu'il y ait une critique sur la gestion. Le regard sur la gestion en fait, parisienne est toujours clivé, gauche-droite, en fait, arrondissement, ouest, etc., par rapport aux autres. Mais clairement, elle a gagné nettement les élections municipales, avec plus de conseillers de Paris qu'en 2014. C'est quand même un fait à prendre en compte. Maintenant, c'est vrai que pendant cette campagne présidentielle, Paris peut être un vrai talon d'Achille s'il y a tel ou tel événement, si la droite parisienne, qui est très active et très militante et dynamique, ce qui est son rôle, l'attaque, mais... On est quand même sur une élection présidentielle où elle va essayer, et c'était son discours quand elle dit réparer une France plus juste, c'est clairement un clin d'œil à Chirac 95 qui parlait de réparer la France et de la France pour tous, et enfin plutôt la France plus juste. Donc voilà, on est sur une candidature présidentielle. Ouais. Elle a moins une image parisienne que ne l'avait Nicolas Sarkozy, qui n'était pas maire de Paris mais maire de Neuilly, qui avait une image, si je puis dire, de proximité aux élites. Il y a l'image parisienne, elle est relativement diverse.
Sur l'incarnation, est-ce qu'elle fait l'unanimité au PS et est-ce qu'elle fait l'unanimité à gauche?
Ça dépend de qui on parle. Auprès des sympathisants de gauche, elle est en tête dans nos baromètres derrière Martine Aubry.
Ouais.
Non, je pense qu'au PS, il n'y a pas de débat, puisque vous savez que lundi, je crois que c'était lundi... Non, la semaine dernière, il y a eu un vote au sein du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a innové dans son processus, puisque avant, il y avait des débats sur le fond, puis ensuite, on débattait de qui on désigne. Bon, là, ils ont choisi de faire chose de différent, et on vote pour un texte, et sur ce texte... Il y a écrit le nom de celle ou celui que le texte soutient. Donc là, le texte d'Olivier Faure avait dit, si vous votez pour ce texte, vous votez pour Anne Hidalgo. Comme vous parlez de Martine Aubry,
Plus révélateur.
Bon, donc au PS, il n'y a pas de débat. Je pense que c'est 70, 75, 77%.
Il y a juste Patrick Kanner, par exemple, qui dit ce n'est pas depuis son bureau de l'Hôtel de Ville qu'elle pourra conquérir le cœur des Français.
Oui, Patrick Kanner est un soutien d'Anne Hidalgo. Je pense qu'il le dit pour anticiper la notion de elle va faire un tour de France et ce qui est prévu avec son livre.
En gros, il faut qu'elle sorte de Paris. D'ailleurs, elle est partie à Rouen, même si on est sur la scène. Merci, Madame Patouille.
Maintenant, à gauche, c'est autre chose. À gauche, c'est autre chose. On a vu les tensions, notamment avec les écolos. On voit, les partis communistes. Le Parti communiste, lui, veut un accord pour les législatives. Donc, vous inquiétez pas, ils trouveront un accord. Hein, quel que soit comme à chaque fois, quelle que soit la forme et le fond.
Oui. Et
plus
et le
la
parti,
forme que le fond.
Parti.
Voilà. Donc, maintenant, il va falloir qu'elle crée une alchimie. Parce que, on l'a vu au régional en Île-de-France, où aussi il n'y avait pas eu un gros taux d'abstention. 12 plus 12 plus 12, ça ne fait pas 36. Hein. Ça ne fait pas moins, sachant que 36, ça ne permet pas de gagner.
Oui.
Alors au mieux, vous pouvez passer le premier tour. Encore faudrait-il qu'il y ait un rabattement des voix avant le premier tour, sans le retrait des candidats. Mais donc, il faut créer une alchimie propre, et Frédéric Dabi a raison de dire c'est pas c'est l'élection présidentielle. Donc, il y a une martingale, je pense qu'elle va la trouver autour de quelque chose qui tourne autour de la maternité et de la sororité. Comme elle l'a dit, une femme candidate pour être la première femme à l'élection présidentielle, on voit cette notion de réparer, cette notion de protection. Je pense qu'elle va jouer dessus, à juste titre, comme des hommes à la voix rock peuvent jouer sur la notion d'autorité et taper du poing sur la table en disant qu'avec eux, ça va filer droit. Demande d'autorité qui est présente dans nos sociétés, pas seulement en France. Oui. Maintenant, on va voir comment cela se décline. En effet, lorsqu'il va falloir parler de protection, entre guillemets, sociale, mais y compris les Français qui sont de plus en plus éduqués du point de vue économique, de compétitivité, de lutte contre les déficits,
Français,
etc.
Les Français, comment ils la regardent, Anne Hidalgo, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires?
Elle a une image ambivalente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bénéfices d'image liés à Paris. L'idée qu'elle a en fait
donc affronté... ça reste quand même celle elle a... qui a, voilà, elle a court-circuité, j'allais dire, la circulation parisienne.
Non, c'est plus ses bénéfices d'image, le fait que
pour,
son
pour
mandat
des raisons,
parisien...
d'ailleurs, je suis pas en train de prendre position, non, mais, hein, c'est pour des raisons, non,
son mandat
juste
en fait,
ou
parisien,
juste, hein.
Ça a été en fait un mandat où il y a eu où il y a eu les attentats, le Covid, il y a eu beaucoup d'événements et on a le sentiment, elle a été donnée battue, vous le disiez, Patrick, suite à la percée de Emmanuel Macron, coup, qui a fait 34 en fait à Paris au premier tour de la présidentielle, a été donnée perdante au début de la campagne, enfin, à 3 ans avant.
Va...
Mais elle a en tout cas une image de femme de gauche, et elle a une image de personne qui porte des valeurs de gauche et un parcours méritocratique républicain. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des choses assez sévères sur son bilan. Bah, c'est ce que j'ai dans des
oui,
enquêtes.
Oui. Non, mais vous avez des enquêtes, vous avez interrogé
des enquêtes qualitatives.
Ça dépend
des
catégories. En Cali, ça dépend des catégories.
Quand on va à Nantes, quand on va à Bordeaux, quand on va à Lyon, quand on va
des métropoles.
Et après, quand on va dans des petites villes, justement, qu'est-ce qu'on dit d'Anne Hidalgo ?
Je pense qu'il y a un effet loupe Paris qui est énorme. On le voit bien à chaque élection, d'ailleurs, puisque à chaque fois qu'on a les résultats des élections de Paris intramuros, ça fait basculer à gauche. Donc, jauger de sa popularité générale à l'échelle du pays à l'aune de Paris me paraît quand même assez audacieux. Le fait est que c'est quelqu'un de gauche qui n'a quand même pas d'assise populaire. Alors c'est compliqué quand on est de gauche. Moi, c'est comme un parti de gauche sans assise populaire, c'est comme un boulanger sans pain quand même. On voit du reste, vous l'avez écarté du revers de la main, mais moi ça m'intéresse, je trouve que c'est symbolique. Elle est allée le chercher à la fête de l'UMA, mais il n'est pas évident qu'elle le trouve là-bas. Par ailleurs, vous avez parlé de sororité, de maternité, ça c'est une fibre. Elle essaie de jouer cette fibre-là, notamment pour se victimiser. Par le passé, elle l'a fait. Et je pense qu'elle utilisera cela pour parer les attaques des adversaires. Hein, on se souvient d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, face à Ségolène Royal, disait « Je suis obligé de tenir mes coups parce que sinon, on va me trouver misogyne, etc. » Mais en fait, ça ne marche jamais, ça. Moi, j'ai remarqué. Hillary Clinton a essayé de jouer cette carte-là. Ça n'a pas fonctionné. Même Ségolène Royal, donc je venais en parler, a essayé de le jouer. Ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne même pas auprès des femmes. Et j'avoue que j'ai vu un grand moment de bashing, pour encore utiliser un mot anglais, je suis désolée.
C'est pas grave. De
Anne Hidalgo, c'est au moment où on l'attaquait sur son bilan, où elle disait « Ah, oh, ça c'est parce qu'on m'attaque, parce que je suis une femme et parce que je suis espagnole. » Et ça, même les femmes n'aiment pas ça. Donc je crois que ce serait une très mauvaise fibre, une mauvaise carte à jouer, pardon, surtout dans un contexte où il y aura Marine Le Pen. Donc évidemment, elle ne sera pas la seule.
Écoutez, historiquement, la grande force du Parti Socialiste, c'est entre guillemets l'alliance des classes et le dépassement des catégories. C'est-à-dire, vous avez la bourgeoisie... classe moyenne, vous avez les catégories populaires qui, à un moment donné, peuvent se retrouver. En 1981, vous avez cette alchimie-là, d'ailleurs, je le rappelle, avec plus de candidats au premier tour qu'aujourd'hui, de toute la gauche. Ouais. Hein. Il y avait les radicaux de gauche, des écologistes, le Parti communiste, qui n'a pas empêché la victoire. Après, en effet, il y a un petit changement, c'est pas François Mitterrand, quoi qu'on en pense. Après, là, c'est comment, aujourd'hui, qu'il y ait un discours d'Anne Hidalgo audible par la première catégorie de personnes que vous avez listées, c'est-à-dire le cœur des habitants qui vivent dans les métropoles, qui ont compris l'enjeu. Bon. On veut du tram, tout ça. Mais ensuite, comment on va parler aux autres catégories sociales, ceux qui savent que ce qui s'est passé pour les gens qui pouvaient être en partie naïfs comme moi lorsqu'on est devenu parlementaire sur le thème la déductibilité ou la déduction fiscale pour les heures supplémentaires, c'est pas bien, ça rapporte pas et ça crée pas d'emploi. Sauf qu'une fois que vous êtes élu, en face de vous, vous avez l'ouvrier que vous êtes censé vous représenter qui vous crache à la figure en lui disant « moi, je fais 1 000 euros par an ». Donc, ce que je veux dire, c'est qu'entre le monde idéalisé des catégories populaires et leur réalité, il y a un discours à développer qui, lui, doit être aussi concordant avec votre cœur de cible, qui est pour le moment le cœur des métropoles. Donc, sur le fond, Anne Hidalgo, de la façon dont elle est perçue, va amener aussi le discours que moi j'attends avec beaucoup d'impatience pour essayer de lier les catégories sociales entre elles
et
dans un vote
là,
commun.
Et justement qu'on trouvera cette colonne vertébrale qui nous manque encore aujourd'hui. Gabriel Cluzel est avec nous, Patrick Karam, Razi Hamadi et Frédéric Dabi. Dans un instant, on change de bord et on part au RN avec un autre discours, celui de Marine Le Pen. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table Frédéric Dabil, directeur général opinion de l'IFOP, avec la rédactrice en chef du site d'information Boulevard Voltaire, Gabriel Cluzel, Patrick Karam, vice-président de Libre et vice-président de la région Île-de-France, et Razi Hamadi, ancien député PS et directeur général de News Tank Cities. Jordan Bardella aura 26 ans demain et en guise de cadeau d'anniversaire, il reçoit
Un RN, un Rassemblement National, bon, pas neuf, hein, il a quelques kilomètres. Sa précédente conductrice, Marine Le Pen, lui laisse, comme on laisse sa voiture à son ado qui vient d'avoir le permis, pour conduire autre chose, une campagne présidentielle. Troisième campagne pour Marine Le Pen, qui a choisi son slogan, « Liberté, liberté chérie », slogan issu tout droit de la Marseillaise. Pour le discours, la liberté de choisir, la sécurité, l'immigration, évidemment, avec des phrases comme celle-ci.
En France, les Français ont le droit de vivre comme des Français. Les délinquants seront donc mis hors d'état de nuire, les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion.
Voilà, Marine Le Pen, à Fréjus, commentaire là-dessus ? Patrick Caram.
Oui, pas de commentaires, ce sont ces thématiques habituelles. Là, simplement, ce que je note, c'est que liberté, liberté chérie, il faut entendre l'effet anti-pass sanitaire, parce que il défile de toutes les quatre coins de la France, y compris en Outre-mer, sous le mot « liberté, liberté ». Donc, elle qui n'a pas été présente pendant ces manifestations, qui était très gênée, et qui a vu émerger son ancien conseiller, qui a commencé à se vouloir se refaire une virginité, elle essaie de récupérer tout simplement cette thématique-là en se faufilant à travers un slogan électoral. On verra si elle va changer de slogan pendant sa campagne, mais en tout cas...
Ah, elle peut, vous pensez qu'elle va changer de slogan ?
On ne sait jamais. Vous avez Marine Le Pen est assez plastique. Permettez-moi de dire...
Marine Le Pen est assez plastique.
Assez plastique sur certaines choses. Quand elle se retrouve face... Il y a une chose qui m'avait frappé. Elle se retrouve face au ministre de l'Intérieur. Et que face au ministre de l'Intérieur, elle lui dit que c'est vous qui êtes le plus... qui faites de la surenchère et êtes les plus
oui,
extrêmes.
Oui, ça c'est l'émission télévisée avec Gérald Darmanin.
Vous voyez bien qu'il faut avoir une plasticité intellectuelle sans nom pour voir sortir ce genre de... Et ce genre de message et penser qu'elle va être crue. Moi, je voulais juste dire un mot quand même. Moi, ce qui m'agace, et je vous le dis, c'est que le parti Rassemblement National, ça a changé de nom, c'était le FN, c'est devenu RN. Oui. C'est un parti familial, c'est insupportable. Et je vais vous dire pourquoi. On a vu débarquer au conseil régional Bardella, tête de liste, avec sa future belle-mère qui est la sœur de Marine Le Pen. Marine Le Pen, finalement, Bardella peut l'appeler Tati, ou future Tati. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sort pas...
Et alors ?
Mais ça pose un problème. Pardon, vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas réserver des postes à vos proches, à votre famille, à ceux qui vont être vos affiliés, parce qu'ils sont vos affiliés. C'est ça le Rassemblement National.
Coup de gueule du vice-président de Libre. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça pose un problème, le fait qu'il y ait un cercle familial ? Que ce soit un family office
Que ce soit un fonds de commerce familial, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Mais c'est grave dans la politique française de manière plus générale, et plus particulièrement dans le cas du Rassemblement National. C'est-à-dire que vous avez des gens qui croient en leur folie, en leur bêtise, puis eux, bah, ça fait 40 ans, 50 ans que la boutique tourne, ils ont pu s'acheter des châteaux avec, ils vivent bien, ça transmet... on essaye aussi d'arnaquer de temps en temps un petit peu là, sur les financements de campagne, il y a des gens qui ont été condamnés là-dessus, hein. Je veux dire, je ne suis pas là dans la calomnie, hein. C'est-à-dire qu'on a fait payer par le contribuable 10 fois ou 15 fois le prix de tracts et d'affiches qui étaient fournis par... Bon, bah, bien sûr, maintenant sur le fond, ce qui est inquiétant, c'est un petit peu la vacuité, puisqu'on se dit Marine Le Pen, la dernière fois, elle est au second tour. Au second tour, pour elle, c'est la première fois qu'elle est au second tour. Bon, on se dit, bon, elle dit, j'ai pas été loin, j'ai raté mon débat, mais je me suis bien préparé, etc. Donc si elle s'est bien préparée, on imagine qu'ils ont construit quelque chose sur le fond, quoi. Il y a quand même des choses à dire, hein. Je veux dire, entre aujourd'hui la crise économique, la dette qui guette, la question écologique, environnementale, la France, l'immigration, tout ça, enfin, quand même, pour le Front National, si on n'est pas trop débile, avec des gens qui réfléchissent, on peut pondre quelque chose pour son électorat qui soit un peu sophistiqué et qui soit audible. Résultat, on dirait, elle a ouvert le journal il y a 3 semaines, elle a vu des manifestations sur le pass sanitaire, elle a dit, ah bah tiens, ça c'est pas mal, je vais essayer de capter ça. Je vais dire liberté.
Frédéric Dabi.
Et je pense que s'il n'y avait pas eu les manifs, il n'y aurait pas eu le mouvement sur le pass sanitaire, elle n'aurait pas appelé ça liberté.
Vous pensez que ça vient de là ?
Oui, sans doute, mais je pense que c'est moins le slogan que la tonalité du discours qui est
Frédéric
un discours...
Dabi, directeur général de l'IFOP.
Oui, qui est un discours extrêmement classique du RN, qui parle d'insécurité, d'immigration. C'est les deux leviers de motivation du vote du Rassemblement National. On l'avait vu dans une enquête pour le journal du dimanche. C'est dans un contexte où il y a un vrai enjeu pour Marine Le Pen suite à la déconvenue des régionales, même si présidentielle n'a rien à voir avec un scrutin intermédiaire, mais il s'inscrit dans un continuum d'élections, c'est la mobilisation de son électorat. Donc elle est forcée, si je puis dire, de revenir aux fondamentaux du RN. Ce qui est vrai, c'est que, on l'a dit en difficulté, elle est systématiquement au second tour dans toutes les enquêtes que nous menons, elle est systématiquement battue.
Elle est à combien, là ?
Elle est entre 24 et 27, 28%, mais il faut avoir, ça ne veut pas dire que c'est une vérité, mais historiquement, jamais Marine Le Pen n'a connu une dynamique électorale dans une campagne présidentielle.
Pourquoi ?
Parce qu'elle n'est peut-être pas une bête de campagne. En 2011, il y avait des sondages qui la mettaient au coude à coude, voire un peu devant Nicolas Sarkozy, je parle de septembre 2011. Mmh. En 2016, on se souvient qu'elle était très en tête, sauf quand elle était face à Alain Juppé, mais elle était en situation d'arriver en tête au premier tour. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a aussi, on le voit, que dans notre sondage IFOP-JDD d'aujourd'hui, elle apparaît la plus crédible face à Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier et Éric Zemmour sur l'immigration et sur la sécurité. Elle est très en deçà sur l'incarnation de la fonction présidentielle et la capacité à représenter la France à l'étranger. Elle a un déficit d'incarnation qui
Gabriel Cluzel du site d'information Boulevard Voltaire, c'est pas une bête de politique, Marine Le Pen, comme le dit Frédéric Dabi.
Non, moi j'en sais rien. Je pense qu'elle a connu, elle connaissait une dynamique jusqu'au régional. Ouais. Et c'est vrai que le mouvement a connu un coup d'arrêt. En fait, il y a beaucoup de gens, me semble-t-il, qui pensaient que là, vraiment, elle avait des réelles chances de l'emporter. Et la désaffection des urnes de, semble-t-il, son électorat. Après, quand un électorat ne va pas voter, est-ce que c'est encore votre électorat ? C'est une question. Mais en tout cas, d'un électorat qu'on imaginait aller voter pour elle, a donné un coup d'arrêt. Les gens se sont dit, bon, bah, décidément, elle n'y arrivera pas. Alors, c'est peut-être, là encore, un angle, enfin une façon de voir un peu biaisée, parce qu'il y a des élections qui sont propres, qui sont favorables à tel ou tel parti. Par exemple, les élections européennes sont traditionnellement assez favorables aux écolos. C'est pas pour ça que la percée aux européennes confirme par la suite. Là, les régionales, on peut dire que ça intéresse pas grand monde, que c'est un public boomer habitué à aller voter un peu par réflexe pavlovien qui va voter, et celui-là vote souvent ou Emmanuel Macron, ou LR. Bon, donc on pourrait imaginer que c'est biaisé comme analyse, mais il n'empêche que c'est là, c'est bien là. Et je pense que ce coup d'arrêt a donné des ailes, par exemple, à Éric Zemmour. Et là, actuellement, se joue une primaire non dite, une primaire médiatique, où, vous savez...
Entre Marine Le Pen et Éric Zemmour.
Et voilà. Et comme souvent, d'ailleurs, dans les primaires, cela se confirme, c'est-à-dire que c'est l'élément le plus au cœur des fondamentaux de l'électorat, c'est-à-dire l'immigration. Éric Zemmour est réputé être plus fondamental sur le sujet de l'immigration, radicale.
Si cette primaire est déjà... elle est faite, la messe est dite. Non, on a et je me tourne vers Frédéric Dabi, on est à 20-21 pour Marine Le Pen et combien pour 6 ou 7 ou 8 pour Éric Zemmour ?
Oui, elle est à 22% et Éric Zemmour à 7%. Dire que la messe est dite, Pierre, à 7 mois du vote, soyons extrêmement, extrêmement prudent.
Non, mais sur la primaire, je parlais pas du vote.
Non, mais attendez, il y aura pas de primaire.
Non, mais si dans le rapport, non dite, bien sûr,
vous êtes très bien dit d'ailleurs, je suis d'accord avec ce terme. C'est une primaire non dite. Les deux adversaires se jaugent. On sait très bien qu'elle va être la stratégie d'Éric Zemmour, c'est de dire que Marine Le Pen est nulle et qu'elle est incapable d'affronter Macron dans le cadre d'un second tour.
Même
ce que
s'ils
va dire
vont
le
dîner
Front
ensemble,
national,
j'espère qu'il sera pas, non, il un pas petit dîner, peu plus galant.
Ce que va dire le Rassemblement national, c'est que Éric Zemmour est un diviseur et donc voter Zemmour, c'est voter Macron. On a déjà les éléments de langage. Maintenant, à 7 mois du vote, on ne peut pas savoir ce qui va en sortir.
Ouais. Macron faisait 7% il y a quelques mois, quelques mois à cette époque, avant les présidentielles. Bon, ça n'a pas empêché de gagner. Non, ce qui m'a assez amusé en écoutant Zemmour, c'est qu'aujourd'hui, son meilleur ennemi finit par devenir Marine Le Pen. Moi, je l'ai entendu avec une phrase que Marine Le Pen aime utiliser contre ses ennemis. Voter un tel, c'est voter pour Macron, voter, etc. Eh bien, Zemmour le lui a retourné en disant, ben, finalement, voter Marine Le Pen, eh bien, c'est voter faire gagner Macron. Ouais. Attendons de voir comment ça va parler aux électeurs. Après, il y a un autre sujet. L'autre sujet, celui-ci, c'est que l'électorat lepéniste est lepéniste, attaché à une famille, un nom. Et Zemmour, il s'appelle pas Le Pen.
Et Zemmour, peut-être pour une partie de cette frange-là...
Il deviendra peut-être le gendre.
Zemmour, pour une partie de cette frange-là, n'est pas forcément totalement français. Pardon de le rappeler, mais moi je me souviens, et c'est assez choquant, de Jean-Marie Le Pen qui dit à Nicolas Sarkozy, oui, vous êtes français de peu de générations, vous devriez plutôt faire profil bas, quelque chose comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il reste encore dans ce parti-là, quel que soit ce que fait Zemmour et ce que fera Zemmour, il reste encore cette espèce de petite musique.
Un mot de Jordan Bardella, quelle feuille de route pour lui ? Est-ce que vous le voyez comme un Poutine Medvedev, c'est-à-dire avec une Marine Le Pen qui lui dit, voilà, tu fais ça, et puis t'es le président du parti, ou est-ce qu'il y aura quand même un delta de pouvoir de décisionnel au Rassemblement National, Frédéric Dabi?
En tout cas, dans une campagne faite présidentielle, le parti n'existe plus.
C'est ça.
Peu
importe.
Voilà, je pense que c'est pas fondamental. On sait très bien que les sujets
partisans...
On parle
beaucoup de ce passage de relais,
non,
mais en réalité,
je pense que les Français vont être extrêmement indifférents.
Attendez,
et Jordan Bardella, c'était donné du baromètre, il faut fiducial pour Paris Match, n'est connu que par à peine un Français sur deux. Donc, c'est pas quelqu'un qui est central dans la vie politique française. Et je pense qu'il va garder la boutique RN. Je crois même qu'en 2017, elle s'est, entre les deux tours, retirée symboliquement de la présidence du Rassemblement National. Ça demande à être vérifié.
D'ailleurs, on remarque sur la fiche de campagne de Marine Le Pen, il n'y a pas de logo du RN.
C'était le cas aussi en 2007, avec la rose, etc. La rose violette, si je ne me trompe pas. Donc, c'est tout à fait classique.
Il y avait eu un problème avec la rose.
Fagocite le parti et que le parti n'existe plus dans le sens en termes de visibilité.
Comptez pas sur Bardella, pardon. Moi, je le vois au Conseil régional. Il est évanescent au Conseil régional. Vous l'entendez quasiment jamais. Et sur des débats de fond et structurés, c'était pas un hasard si c'était pas lui qui les conduisait. Est-ce que vous l'avez... Ils envoyaient l'ancien tête de liste du Rassemblement National affronter sur l'économie, d'autres sujets.
En effet, il n'y a pas de primaire aujourd'hui.
Il lèvera pas un petit doigt.
Il n'y a pas de primaire aujourd'hui à l'extrême droite. Mais ce que je veux dire, c'est que la question, elle va être rapidement tranchée. Est-ce qu'Éric Zemmour a les 500 signatures, oui ou non ? Est-ce qu'il a les moyens financiers d'y aller, oui ou non ? Mais la question, ça sert à... Bon, c'est vrai que ça peut remplir les pages et papiers, remplir le papier glacé de certains magazines pendant encore quelques semaines, parce qu'une présidentielle, quand même, médiatiquement, c'est aussi du fonds de commerce, donc il faut le nourrir. Il y a des épisodes, il y a la saison 1, la saison 2. Bon, si vous voulez retrouver Éric Zemmour dans la saison 2, est-ce qu'il aura les 500 signatures ? Voilà, c'est le seul épisode de la saison 1 qui va avoir une véritable utilité à la suite du scénario.
Gabriel, Cluzel, et ça sera le mot de la fin sur ce débat.
Si je peux me permettre, que vous avez une méconnaissance du Rassemblement National actuel. Je ne crois pas ce que vous dites des origines d'Éric Zemmour le dessert, bien au contraire, d'ailleurs, j'allais le dire. Et parce qu'on pourrait dire la même chose de Louis Alliot à ce moment-là, et qui a les mêmes origines. Donc, je ne crois pas que ce soit fondé. En revanche, un certain nombre d'électeurs, la ligne adoptée actuellement par le Rassemblement National, disent Éric Zemmour sera le ce qu'a été pour Marine Le Pen, ce qu'a été Christiane Taubira pour Jospin. Voilà, et qui a fait qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen avait atteint le second tour. Je pense que ce sera cette ligne sur laquelle se mettra Marine Le Pen. Simplement, je voulais dire quelque chose
à propos des
LR. Je pense, et je reviens là-dessus parce que moi, personnellement, ça m'a choqué. Je pense que, par exemple, la participation à la fête de l'UMA par Valérie Pécresse a été une erreur stratégique majeure. Et je voulais vous demander, est-ce que la région Île-de-France finance la fête de l'UMA ou pas? Je me posais la question parce que je l'ai lu dans l'Libé.
Oui, puisque Patrick Caram est vice-président de la région Île-de-France, il peut répondre à ça.
Ça m'intéresse.
Mais d'abord, sur l'erreur stratégique, je ne le crois pas. Quand on est président de la France, on parle à tous les Français, quelle que soit l'origine.
Bon, vous avez une vision.
Non, mais ça ne s'agit pas de moi, je voudrais une réponse à ma question. Vision. Est-ce que le Conseil régional
vous allez l'avoir après
France...
le journal de 19h. Après le journal de 19h,
vous
d'ailleurs,
une vision intriquée de ce que doit être un président.
S'il vous plaît, laissez-moi parler. Après le journal de 19h, Alexandre Benalla, on va en parler puisqu'il comparaît demain pour avoir molesté, vous savez, ce couple de jeunes place de la Contrescarpe. C'était le 1er mai 2018. On en parlera et on parlera aussi de ce match du siècle Djokovic, ça sera dans la deuxième partie des débats d'Europe Soir. À tout de suite.